30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, la 61e émission de 30 minutes chrono. Alors, après les flying discs de la semaine dernière, on va parler de tout à fait autre chose. Un petit sommaire. Alors, cette semaine, il y aura une chronique de la Babale Carrée. Elle va parler du sort réservé aux supporters de foot. Alors, dans un pays en équilibre précaire entre démocratie et retour à la dictature. Alors, nous sommes déjà un peu loin des printemps arabes et un peu plus près du chaos. Alors, c'est en Égypte, grande nation multi-championne d'Afrique, que nous irons au pays des pharaons, le nom donné aussi à leur équipe nationale. Ensuite, 30 minutes chrono recevra aujourd'hui, dans un tout autre contexte que les Égyptiens, mais toujours dans le même sport, celui qui est roi, comme on dit un peu facilement dans les médias, le football du peuple montpellier. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, on va en parler. Ils seront avec nous pour nous expliquer leur but, qui, si j'ai bien compris, n'est pas principalement d'en marquer des buts, mais plutôt de redonner à ce sport son sens populaire. Je suis donc avec Mathieu et Christopher. Alors, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Ça, c'était Christopher. Maintenant, je veux entendre le son de Mathieu, de la voix de Mathieu. Voilà, donc c'est deux représentants de cette... C'est pas une association ?
Non.
C'est quelque chose d'un peu informel. On en parlera tout à l'heure, bien sûr.
Voilà.
Alors, on est un peu curieux de savoir qu'est-ce que c'est que ce football du peuple montpellier. Enfin, bah, on verra avec vous tout ça. On vous donnera des échéances qui sont importantes pour vous. Et puis surtout, comment ça s'organise. Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale. Je fais ma petite chronique et puis après, je suis à vous. Babale Carrée. Alors, la chronique de la Babale Carrée va donc, comme déjà dit dans le sommaire, parler du sort réservé aux supporters de foot au pays des pharaons. Alors, les pharaons, c'est évidemment les Égyptiens, c'est le nom qu'on donne aussi à l'équipe nationale, qui fut et reste encore une nation majeure du foot africain. Quoique en perte de vitesse face à la concurrence des autres nations de l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, et à la poussée des Africains plus noirs de peau qui jouent à la baballe dans les grands clubs européens. Enfin, pas tous. C'est une élite aussi difficile à atteindre que les côtes de Lampedusa pour un jeune érythréen venu prendre un rafio chez les voisins libyens. Bon, nous avons appris fin avril que 11 supporters égyptiens venaient d'être condamnés par un tribunal un peu sévère. L'affaire date du 1er février 2012, à Port Saïd, dans le nord de l'Égypte, là où le Nil n'est plus un immense fleuve, mais un delta impressionnant. Eh bien, il y a eu des émeutes en marge d'une rencontre de football et ça avait fait quand même 74 victimes. Il faut dire que les fans du club local, d'Al Ahly, ne peuvent pas voir ceux de la capitale du Caire, surtout ceux du club phare Al Ahly tout. Ah, c'est pas facile à prononcer. En plus, la police n'avait pas particulièrement brillé par son sens de la modération. Cette tragédie, digne des grandes tragédies de l'histoire du football mondial, a donc entraîné le verdict suivant. Le juge, après avoir consulté le mufti d'Égypte, sorte de grand chef religieux au pouvoir consultatif, a donc ajourné sa décision au 30 mai 2015 pour 62 des accusés, dont 9 policiers. Mais il a condamné quand même 11 personnes qui étaient donc dans le banc des accusés. Ah oui, j'allais oublier de vous le dire, il les a condamnés à mort. Alors revenons à ce jour noir de 2012. La majorité des personnes décédées furent écrasées contre, vous savez, des mouvements de foule quand c'est la panique. Hein, ils ont été écrasés, piétinés. C'est à quel moment qu'ils ont été écrasés ? C'est lorsque la police avait tiré des gaz lacrymogènes suite à l'envahissement du terrain par les fans de l'équipe locale qui était déchaînée contre les autres qui venaient du Caire. Les autorités du football égyptien avaient suspendu le championnat et imposé ensuite un huis clos pour tous les matchs. Un premier procès avait déjà débouché sur la condamnation à la peine capitale de 21 supporters. Mais loin de calmer les esprits, le verdict avait provoqué, vous en doutez bien, des manifestations qui, pour gagner le match à mort, s'étaient soldées par 22 victimes, 22 à 21. Le verdict fut annulé. Et nous en voilà maintenant à ces 11 nouvelles sentences prononcées en avril 2015. Alors cette année, en février 2015, le championnat avait réouvert les portes des stades et au stade des forces aériennes, joli nom pour un stade de foot, vous ne trouvez pas ? Eh bien, le 8 février dernier, les affrontements entre supporters et forces de l'ordre firent à nouveau 20 morts. Le championnat a repris à huis clos. Le contexte de la reprise en main politique du pays par l'armée chère à Moubarak n'est pas étrangère à ce qui se passe autour des terrains de football. Au niveau sportif, cela n'a plus grande importance. C'est de l'avenir du pays qu'il s'agit. Mais comme souvent, le foot, c'est le reflet de la société. Les supporters n'échappent pas à ce constat. Rappelez-vous, en Europe, dans les années 70-80, Madame Thatcher avait ses hooligans. Le drame du stade du Heysel à Bruxelles, entre la Juventus de Turin et Liverpool, avait été l'apothéose de leurs actions barbares. Le PSG, rappelez-vous, avait ses nazillons, tolérés comme une sorte de culture locale. Insupportable. Mais reste que la bêtise n'a pas de limite. Allez les morts !
Il y a Paris, la capitale, qui renifle son trou de balle intramuros. C'est brillant dehors, c'est pour les paysans. D'ailleurs, s'il n'en restait qu'une, ce serait sûrement celle-là, qu'une. Aussi con que la lune et prétentieuse comme il se doit. Mais Paris, ça reste en France, les Français restent les Français. Les chevilles en évidence, le nombril insatisfait.
À Rennes, il fait bon vivre, j'y ai vu, pardonnez-moi. Des masses de foule ivre, des seringues plein les bras. Un soir, une chose amusante sur la route, croyez-moi. La police qui plaisante d'un cadavre sur le toit. Mais Rennes, ça reste en France, les Français restent des Français. Des reins en convalescence, des poumons dans le regret.
Puis à Bordeaux, la bourgeoise, avec son grand cru classé, qu'on déguste dans l'extase, dans les grands lieux new-yorkais, qui indique à sa mémoire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Si pour Papon c'est un trou noir, le Girondin c'est un succès. Mais Bordeaux ça reste en France, les Français restent les Français, des trouillards de gauche en transe, ou des cons de droite muets. À
Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins. Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains. Ils ont un patois, bien sûr, qu'ils utilisent parfois pour écrire sur les murs d'une usine, plus jamais ça.
Oui, Toulouse, ça reste en France, française, c'est pour nous, française. Et qu'il est pétasse sur des rythmes volés.
Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harangues.
Mais qui harangue? Ben je parle harangue, Marseille.
C'est pour la rime luxe, ça, charmant harangue.
Attends, j'en ai une bonne, favouille.
Favouille, ça rime pas, hein?
Attends,
sarangue. Ah, sarangue, ok, ben on va recommencer, on va essayer. Et puis il y a Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses sarangues.
Comme un tout petit village, un hameau ensoleillé qui n'a qu'un désavantage,
être rempli de Marseillais.
My Marseille à cause de la France, les Français restent des Français, des grandes gueules à qui on pense quand on veut avoir la paix.
Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. Sa gastronomie connue qui veut nous faire oublier, pour ne pas être déçu de ses scandales financiers. Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent des Français. De bonne bouffe en concurrence, des non-dits sous le palais.
Lorsque j'ai connu Strasbourg pour la toute première fois, je pensais trouver l'amour dans les rues de celle-là, mais il y eut soudain un doute dans cette ville un peu cruche où l'on parlait de choucroute, d'Europe et de flamme-cuche.
Roche-Trousse pour épée d'une franc-riche.
Les Français restent des Français
de l'intérieur.
L'égalité en freelance, l'humanité qui s'essaie.
Du air que l'offre.
Il y a l'île dans le nord, comme il y a le nord en l'île. Des grands hommes gras et forts ou des consanguins débiles. Des grands projets planétaires qui dépensent sans se soucier à deux pas de la misère des petits enfants minés. Ouais mais l'île, ça reste en France. Les Français restent des Français, des périls d'arrogance, d'inégalité au sommet. Mais...
après cet air géographe, une petite explication. Je ne cherche pas les baves, je ne cherche pas la baston. Mais lorsque je vois au loin qui agite leur drapeau, la grande race des chauvins juste à côté des fachos, bah moi qui suis né en France dans un bled incognito, je ne comprends pas la démence, je ne vois pas les idéaux de ceux qui pensent la naissance comme une attache, un ghetto. Pardonnez-moi cette offense et traduisez-moi ces mots. Issu de la poussière, je m'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, je m'y promène sans frontières.
Issu de la poussière, on s'en retourne à la poussière. Issu de la planète Terre, on s'y promène sans frontières.
Et merde, on s'y retourne, putain, je suis un con. C'est pas,
mais j'ai merdé aussi.
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, ce n'est pas un invité, c'est deux invités. J'ai Mathieu qui est sur ma gauche, mais vous ne le voyez pas. Et j'ai Christopher sur ma droite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des opinions politiques. Hein. Ce n'est pas la tribune Auteuil et l'autre côté la tribune Boulogne. Nous sommes bien d'accord.
Exactement.
Nous sommes bien d'accord. Alors, après cette terrible petite chronique de la Babale Carré, que j'ai faite en pensant un peu aussi au fait que j'allais vous inviter après, parce que c'est terrible le foot quand on en arrive à ce point-là. Alors, vous, c'est un peu l'antithèse de ça. Vous ne cherchez pas du tout ce genre de conflit entre supporters et encore moins la baston, comme est dit dans la chanson.
Exactement.
Alors la chanson, c'était qui, Christopher ?
C'était les Ogres de Barbac, un petit groupe de chansons françaises assez connu maintenant.
Voilà, bon, c'était sympa. En tout cas, ça correspondait bien un peu à l'état d'esprit qu'on veut avoir, je crois, avec vous. Alors, c'est le football du peuple montpellier. Alors, qui veut bien prendre la parole pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette football du peuple Montpellier.
Le football du peuple, déjà, je pense que je peux pas parler de son origine, de comment
voilà.
C'est venu. C'est avec un troisième collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Mathieu aussi, qui avait passé du temps à Athènes, en Grèce, à l'époque où il y avait les grosses manifestations très très violentes du peuple grec contre les mesures d'austérité
de l'Europe.
Les mesures d'austérité de l'Europe.
Donc que le gouvernement grec te mettait en place
Donc c'était des manifestations très violentes, on s'en rappelle. Et notre collègue qui habitait, je crois, pendant 2 ans là-bas, avait fait partie des mouvements fascistes très importants en Grèce. Hein, mais il y a aussi des mouvements antifascistes. Et il avait fait partie d'une ligue antifasciste de football qui aussi organisé au sein d'Athènes des matchs interquartiers, on va dire. Ça se passait avec une vision très politique du football, quoi. Donc là, ouais. Carrément, je dirais...
Le sens noble du terme, populaire.
Populaire, mais militant aussi, et politique, hein, mais du politique de la ville, de la cité, mais du politique engagé. Je dirais presque là que c'est du football résistant.
Remarquez, le politique de la ville, de la cité à Athènes, c'est un peu normal. C'est là qu'on a inventé la démocratie, me semble-t-il, et on disait la cité.
Voilà, c'est ça. Et exactement. Et quand il est revenu en France, il est revenu avec cette idée d'essayer de refaire la même chose à Montpellier, avec un football engagé, d'où le nom, hein, football du peuple, qui est dans une optique en Grèce qui était antifasciste, nous aussi, un football antifasciste, antisexiste, antiraciste.
Mais anti-violent aussi.
Et anti-violent, et aussi, qui est aussi une manière de s'exprimer contre les logiques aussi très capitalistes qui dominent le football actuel.
Ah bah c'est sûr, là pour être dans la logique capitaliste, le football actuel, on en parlait un petit peu avant, off, avant que vous soyez dans le studio, alors j'en parlais avec Mathieu notamment, c'est vrai, maintenant, le football a l'impression qu'on va au spectacle avec les people du coin, il y a les Japonais qui achètent des tickets, mais le peuple, il est où dans les stades, Mathieu ?
Ah bah, il est dans quelques stades, restés un peu moins chers que les grands stades des grandes villes, qui domine le championnat de France,
peut-être
Saint-Etienne a encore un public qu'on peut appeler public de supporters, connaisseurs, ouais.
Qui Lens.
Lens, voilà par exemple, et Paris, comme le disent les autres supporters, a un public de footix, comme ils disent, c'est-à-dire un public qui vient avec les pétrodollars, et le public d'avant est totalement viré du stade. Par une politique.
D'ailleurs, on dit, alors pour revenir au PSG, on dit maintenant, bon, ils ont de l'argent, etc., que l'ambiance du parc n'est plus la même, puisqu'il y avait avant beaucoup de supporters. Alors, ils étaient qui étaient. Heureusement, il y avait toujours ces 100 ou 200 abrutis là, de nazis, mais mis à part cela, il y avait des supporters au PSG qui étaient. C'était le peuple d'à côté, des banlieues. Hein, qui
mais du coup, à Paris, on peut souligner l'initiative. Donc, bien sûr, Paris, c'est PSG, faut voir.
Oh bah, attendez,
PSG, c'est Qatar.
Oui, par contre, il y en a des clubs.
Mais moi, je soulignerais l'action, par exemple, du Red Star.
Qui va peut-être monter en deuxième division.
Le Red Star ?
Oui, ils sont dans les premiers de national actuellement. Hein. Ils sont tout près de monter en deuxième division nationale. Ce serait super. Hein.
Là, on peut voir qu'il y a un militantisme aussi. Ils sont engagés.
C'est Saint-Ouen. Hein.
Forcément. Donc du coup, on voit même dans les tribunes des chants antiracistes, etc. Et on peut souligner, peut-être Mathieu, je ne me rappelle plus le nom de l'autre club qui est un peu sur la même démarche que la nôtre.
Oui, voilà, on a un autre club sur Paris qui est dans la même démarche que la nôtre, qui s'appelle le Ménilmontant FC, qui est en dernière division du championnat amateur de la Fédération française de football.
Le Ménilmontant,
qui est dans la même valeur que nous, mais qui a choisi quand même de faire les vraies compétitions de la FFF.
D'accord, il est affilié à la fédération.
Voilà, donc non mixte.
Voilà. Et il est en ce qu'on appelle en deuxième division, c'est le plus bas niveau, voilà, mais on s'en fout, c'est pas le but.
Voilà, le but, c'est
nous, on a refusé ça.
Ah oui, vous n'êtes même pas rentré dans la fédération.
Parce que déjà, ça implique d'avoir des équipes non mixtes. Il faut avoir une équipe
de garçons ou de
filles. Et nous, c'est pas notre objectif. On essaye de vraiment avoir tout mélangé dans nos équipes. Hein,
racontez-nous. Ça se passe le dimanche, forcément, mais en quelques mots, les compétitions entre guillemets, c'est pas des compétitions, c'est des matchs organisés, on va dire.
Alors voilà, nous, pour l'instant, on n'a qu'un seul rendez-vous par semaine, qui c'est le dimanche.
On peut dire où, hein, c'est au stade
du Père Prévost, on en parlera peut-être après de ce stade, qui est un choix aussi. Donc les entraînements ont lieu le dimanche, donc l'horaire est variable selon la saison, avec l'été qui arrive, on va jouer plus tard. Donc il y a un entraînement pour permettre, toujours dans cette volonté politique, de permettre aux moins bons de progresser avec l'aide des meilleurs. On met en place des entraînements qui apprennent la technique et la tactique de base pour ne pas laisser les moins bons être
spectateurs uniquement.
Voilà. Ouais. Et à la fin, quand même, on fait des matchs où on applique quand même toujours nos, nos valeurs, hein, faire des passes, etc., mettre en place un beau jeu collectif.
Et voilà, et dans un bon esprit, surtout vous, ce que vous refusez, d'après ce que j'ai lu en, en allant là, avec les deux petits documents que j'ai pu trouver sur vous, là, au football du peuple Montpellier, Against Business Football,
ouais,
voilà. en français dans le texte. Alors, c'est un club antifasciste, antisexiste et populaire au sens noble du terme. Et donc, vous insistez beaucoup que dans les partis, il ne faut pas qu'il y ait de... Il ne faut pas qu'il y ait de violence, il ne faut pas qu'il y ait de contestation, plus savoir quoi en faire.
C'est non, pas... c'est... par exemple, ce qui va être interdit là-dedans, ça va être des remarques qui sont dépréciatives envers quelqu'un ou qui peuvent être prises comme humiliantes ou des,
oui,
des remarques...
par exemple, anti, on va dire, PD, Gonzès, ouais, Gonzès, je ne sais
ouais,
pas.
Ouais, voilà, ça, c'est pas du tout de notre objectif. D'accord. Et... ça, on essaye de ne pas avoir ça parce que ce sont des pratiques qu'on voit trop
dans les stades,
dans les stades en ce moment. Et ça participe d'une éducation populaire aussi, ce qu'on fait, du savoir-être ensemble, du respect. Et en même temps, c'est qui ? J'ai oublié son nom aussi, alors j'ai du mal avec les noms ce matin.
Mais ça fait rien, c'est pas ce matin, c'est ce soir, il est 19h30. On est
c'est
samedi.
Dire à quel point j'ai...
Voilà. Alors là, il dit ce matin alors qu'on est 19h30 et on est un samedi, si je ne m'abuse. On doit être le 2 mai, un truc comme
nous,
ça.
Moi, je me base en tout cas là-dessus sur cette citation qui est le plus beau but est une passe.
Ah oui. Et ça, vous savez que c'est une citation d'Éric Cantona ?
Ah oui ?
Vous ne saviez pas. Eh bien, Éric Cantona, il a dit, on lui a posé cette question un jour, à une interview, comme il en faisait toujours un peu décalé, là, vous connaissez Cantona, je pense que vous deviez apprécier un peu le personnage quand même, mais c'est un personnage important.
Avec ses contradictions aussi.
Oui, bien sûr, c'est un footballeur professionnel de très haut niveau, il gagnait beaucoup d'argent, mais on lui avait posé comme ça, quel est votre plus beau but, monsieur Cantona ? C'est en Angleterre quand il jouait à Manchester United. On lui avait dit, monsieur Cantona, dites-moi, Éric, quel est le plus beau but que vous avez marqué ? Il m'a dit, mon plus beau but, c'est une passe.
Ben oui, non mais c'est parce que c'est valoriser le collectif. On est dans la starification, star system de l'individu. Ben moi, je travaille dans les écoles. Je vois bien comment ça marque hein, le football et l'idéalisation du système et du gagner plein d'argent, du pas respecter. Donc c'est nous, je vois comment ça marque la société et j'ai envie, hein, et Mathieu aussi, de d'évoluer dans un football différent qui est en montrant l'exemple.
Et puis qui revient, comme on disait tout à l'heure, aux sources du supporter aussi. Vous allez jouer au foot avec des idées qui sont bien marquées, qui vont dans ce sens-là. Mais aussi, on peut aussi aimer le football. On n'est pas obligé d'aimer le football en aimant le système capitalisme, en aimant les conneries qu'on entend dans les stades. On peut aussi aimer le sport football. Moi, je suis un fan de foot. Hein, j'ai pas honte de le dire. Depuis, je suis tout petit. J'ai même vécu en Angleterre. Donc, je veux dire que quand j'avais 20 ans, j'étais en Angleterre, donc je connais un petit peu le foot populaire. Bon, on va se quitter juste pour une petite pause musicale et on revient avec vous. On va revenir surtout parler donc de quelques événements que vous organisez et puis de votre pas association Football du Peuple Montpellier.
Mais écoute là, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons. Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge. Habitée d'une haine si virulente qu'elle en éparge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire. Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale.
Alors, mon identité ne sera jamais nationale. On est bien avec des footballeurs qui ont le sens international, on peut dire des choses. Et Mathieu va nous parler un peu du choix du stade. Parce que tout à l'heure, en un mot, il avait dit c'est pas pour rien qu'on joue. Alors, pourquoi vous jouez dans ce stade et dites-nous lequel ?
Alors, on joue au stade du Père Prévost. Donc, c'est pas pour rien. Au début, on était vers la fac. Alors, on a changé une fois que ce stade du Père Prévost a été remis à plat. Il faut savoir qu'avant, il avait été, on va dire, détruit par le promoteur qui
oui, je me rappelle était, de cette histoire-là. Il voulait construire des immeubles, voilà.
Des immeubles de luxe.
De luxe, ah bah, évidemment.
De luxe dessus. Du coup, on est allé faire un tour en début d'année pour voir qu'est-ce qu'il en était, parce qu'à un moment, ils avaient soulevé la terre pour empêcher qu'il soit utilisé.
Quand je joue, hein.
Donc là, il était à plat. Bon, pas en très bon état, il n'y a pas de marque, c'est de la terre, il y a juste deux cages, voilà. Donc ça fait depuis septembre qu'on joue dessus, et on veut montrer qu'il est utilisé par les habitants, pour les habitants, sans mandat de la mairie, sans
vous n'êtes pas affilié à quoi que ce soit. Voilà. Les citoyens se sont pris en main.
Mais oui, c'est de l'autogestion, et c'est une manière de protester contre un peu la gentrification qu'on a dans les grandes villes, qui est toujours de mettre le populaire à l'extérieur.
Finalement. Ça s'appelle la centrifugeuse.
Centrifugeuse, gentrification aussi. C'est aussi une réappropriation populaire d'un stade qui est le plus vieux stade municipal de Montpellier, qui a une vocation populaire qui devrait être dans l'accueil justement des gens du coin. Parce qu'on dit que c'est aux Beaux-Arts. C'est pas exactement aux Beaux-Arts, c'est un peu plus loin. Il y a des logements sociaux.
La station de tram qui est juste à côté, là, je ne me rappelle plus.
Jeu
de mailles des abeilles, il y a des quartiers populaires là, pas loin, pas loin du cimetière Saint-Lazare.
Voilà, ouais. Donc si on va jouer là-bas, c'est aussi montrer que c'est un stade municipal, le football c'est un sport populaire, on est là pour faire jouer les gens, le peuple, et pas pour construire des immeubles de luxe, parce que les gamins dans le quartier, ils vont jouer où après ? Ils vont prendre le vélo pour aller je sais pas où, pour aller taper le ballon.
Et après, il faudra qu'ils payent des licences, comme vous disiez aussi, il faudra qu'ils payent quelque chose, et ça coûte cher. Hein.
C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus le choix. Si on veut jouer au foot, sérieusement, on va dire, on est obligé de rentrer dans un club FFF, de subir, pour la plupart des clubs, peut-être pas tous, mais de subir peut-être des pressions. Si on n'est pas très bon, qu'on veut progresser, on est vite mis à l'écart.
On est viré.
L'entraîneur met les meilleurs, et sur le banc, il y a les moins bons.
Voilà,
donc
c'est ça,
nous, on veut offrir une alternative. Proposer à des gens qui ne joueraient pas au foot, de jouer au foot, et sur un stade qui est municipal, qui est au peuple.
Voilà. Et Mathieu, des fois, alors là, je reviens plutôt sur le côté plus sportif, entre guillemets, hein, des fois, on a des surprises. Celui qui n'était pas très bon, si vous le mettez en avant, vous lui dites, vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre, au bout d'un certain temps d'entraînement, on a des surprises. Hein. Il y en a qui arrivent à s'en sortir correctement. Hein. Donc, c'est aussi révélateur.
Ce qui fait pas mal changer les mentalités, c'est le fait qu'on joue de façon mixte avec des équipes mixtes. Nous, on a des collègues, des jeunes filles qui jouent en club aussi.
Ah oui,
ça nous est arrivé de jouer contre des gens qui ne connaissaient pas trop notre club et qui s'attendaient à gagner facilement et finalement qui sont pris des buts. Alors, des buts par les filles, ça les surprenait. nous, on s'en fout, nous, hein, on ne fait pas de distinction. Mais du coup, cette confrontation permet de changer
la mentalité.
Ouais.
Mais c'est votre but, hein. Vous allez atteindre la mentalité et puis rendre un peu au peuple l'espace.
On essaye que ça soit aussi autogestionnaire, hein, donc pas officiellement déclaré, qu'on puisse se gérer ensemble. On a une caisse, une trésorerie qui nous permet d'acheter des chasubles, des plots, des ballons, tout ça, mais dans un système mutualisé, horizontal, d'autoresponsabilisation de l'organisation.
Et comment qu'on fait pour vous contacter?
On a un Facebook.
Ils sont modernes chez eux.
Voilà. Football du peuple Montpellier.
Voilà. Ouais, si on tape football du peuple Montpellier sur Facebook, c'est la meilleure manière. Bon, là, on ne va pas donner de numéro de téléphone ni rien, le Facebook, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, il faut venir au stade du Père Prévost le dimanche à 15h maintenant.
Et comme ça, vous vous rencontrez. Et puis, je crois qu'il y a un événement qui se déroule demain, donc on va en parler avant de se quitter.
Demain à 15h, on va organiser une occupation festive et populaire du stade pour montrer qu'on existe.
Et que ça marche.
Parce que on a un peu peur qu'une fois que le terrain va être rénové, les gens qui l'utilisent, c'est-à-dire nous et d'autres, soient mis à l'écart.
Et quand on sait une association.
Par une association bien tenue par la mairie, propre, etc.
À notre maire président.
Du coup, nous, on veut montrer qu'il y a des gens qui le prennent. Du coup, on va inviter des associations qui sont dans le même esprit que nous, c'est-à-dire de la réappropriation populaire d'espace public. Donc les amis de Oxylane, des gens qui...
Allez-y, citez les gens.
Oxygène, l'association Oxygène qui se bat contre le projet Oxylane à Saint-Clément.
On va inviter aussi
Montpellier 4020, là. On va inviter les gens de la Mogère qui défendent, qui se battent contre le projet de gare TGV à la Mogère. On va inviter aussi des associations et des collectifs d'extrême gauche. Voilà, pour se rencontrer, pour montrer qu'on existe, pour que les gens connaissent ce stade et le défendent s'il est
mis en danger. On fera un match d'exhibition, voilà. Et puis aussi un apéritif, enfin festif.
Après le match. Oui, nous sommes bien d'accord.
Troisième mi-temps.
Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à Christopher et à Mathieu d'être venus dans les studios de Divergence. Allez voir ce qui se passe, parce que ça me semble assez intéressant. Allez le dimanche 3 mai, par exemple, à ce stade, voir qu'est-ce qui se passe. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.